Place Info.
Bonjour Jean-Michel Blanquer. Peut-on vraiment réformer les retraites avec tous les syndicats contre soi ?
Bon, je ne pense pas que nous aurons tous les syndicats contre nous à la fin du processus. Vous savez, on est d'abord maintenant rentré dans une nouvelle phase qui va être notamment la phase de la démocratie parlementaire. Il y a eu des mois et même plus d'une année, une année et demie même, consacrée à la démocratie sociale, au fait de discuter avec les syndicats. Il y a eu tout un travail très important qui a été fait, vous le savez bien. Mais cette première phase, elle n'est pas achevée. Autrement dit, pendant que va s'exercer tout le travail autour du projet de loi, nous allons continuer à discuter avec les syndicats.
Hier soir, en tout cas, le premier syndicat de France, par la voix de son patron Laurent Berger, est passé dans le camp des opposants. C'était dans le 20h de France 2.
Cette réforme, elle est insuffisante sur le fond, sur la pénibilité, mais elle est plombée par cet aspect d'économie qui va demander, à partir de 2022, de travailler plus longtemps pour ceux qui comptaient partir en 2022. La CFDT, elle est contre cette mesure parce que les efforts avaient été faits dans les réformes précédentes. Aujourd'hui, c'était le temps de la justice et de l'égalité. Et donc, nous appellerons les salariés le 17 à manifester avec nous.
Vous l'avez sous-estimé, Laurent Berger.
Non, on a surtout beaucoup d'estime. Ça continue. Vous savez, il faut d'abord, vous avez dit, c'est l'opposant, mais c'est aussi l'inspirateur d'une certaine façon, puisque.
Mais il dit qu'il a été trahi aujourd'hui.
Les mots parfois sont un peu forts. La CFDT, vous le savez, a été une des premières organisations à avoir comme idée l'idée que la retraite à points pouvait être une très bonne chose pour la France. Nous partageons cette idée. Nous pensons qu'il n'y a pas d'idée plus égalitaire, plus profondément républicaine que celle-là, parce que c'est ce qui permet à tous les Français d'avoir les mêmes droits vis-à-vis de la retraite. C'est une avancée sociale considérable et Laurent Berger est d'accord avec cette idée. Encore une fois, il en est l'un des initiateurs et son organisation avec lui. Aujourd'hui, qu'il y ait un désaccord sur un aspect qui n'est pas le premier aspect de la réforme, c'est un sujet évidemment de désaccord, il faut le constater, mais c'est pas non plus quelque chose de dirimant.
Alors ce désaccord, il porte donc pour la CFDT sur cet âge pivot fixé à 64 ans, cet allongement de la durée de cotisation jusqu'à cet âge pivot de 64 ans. Est-ce que cette mesure, cet âge dit d'équilibre, cette mesure, elle est gravée dans le marbre de la loi ou est-ce qu'elle est encore négociable ?
Mais de toute façon, comme l'a dit le Premier ministre, il y a à la fois une grande fermeté quant au grand principe, parce que c'est décisif pour l'avenir de notre pays et l'avenir des retraites et l'avenir même du niveau de pension des plus jeunes et même de ceux qui naîtront dans les décennies à venir. Donc ce point-là, il est clair. Tout ce qui permet d'aller à l'équilibre ne correspond à aucun dogme. C'est ce que nous voulons, c'est l'équilibre. Après, la manière d'y arriver, ça se discute en permanence. Et c'est pourquoi d'ailleurs le Premier ministre l'a dit très clairement. Si les partenaires sociaux ont de meilleures idées au cours des deux prochaines années pour arriver à l'équilibre, nous adopterons ces idées-là. Autrement dit, c'est un discours de responsabilité et je dirais même de transparence vis-à-vis des Français et vis-à-vis des partenaires sociaux, puisqu'on dit on a un but, c'est l'équilibre. Ce but, c'est pas parce qu'on a, parce qu'on s'est réveillé un matin en disant il faut l'équilibre par dogme. C'est simplement dans l'intérêt général. Parce que si on ne va pas à l'équilibre, ça veut dire qu'on pousse la neige devant nous et qu'on fera payer ses dettes à nos enfants.
Mais il faut l'équilibre financier.
Donc c'est un discours de responsabilité. Et d'autant plus un discours de responsabilité qu'on dit aux partenaires sociaux, voilà, on compte y arriver comme ça. C'est-à-dire une évolution très progressive de l'âge de
la retraite. Quelle échéance l'équilibre financier pour vous?
2027. Et là aussi, c'était une concession. Puisqu'originellement, c'était 2025. On a dit 2027, justement, après avoir écouté les organisations syndicales, ça ne les satisfait toujours pas. Alors nous leur disons, eh bien, si vous avez une meilleure idée pour arriver à l'équilibre, elle nous intéresse. Mais attention, il faut arriver à l'équilibre. Et c'est pas parce qu'encore une fois, c'est pas parce qu'on serait des méchants et qu'eux seraient des gentils. C'est
si
parce
c'est
que tout simplement,
pivot,
à la fin, on a le sens de l'intérêt général.
Si c'est pas l'âge pivot, Jean-Michel Blanquer, c'est quoi ? Sur quel autre levier ?
Vous savez, non, il y a trois critères qui font évoluer un système de retraite pour réussir à ce qu'il soit équilibré. Hausse des cotisations.
Vous avez déjà dit non.
On ne le souhaite pas et personne ne le souhaite.
Puisqu'il ne reste plus que deux.
Ensuite, il y a baisse des pensions, mais ça, personne ne le souhaite.
Vous avez déjà dit non,
plus.
Donc il ne reste plus qu'un.
Personne ne le souhaite et c'est même le cœur de tout ce que nous faisons, c'est pour éviter
donc
qu'il y ait une baisse des pensions.
Donc vous êtes ouvert à la négociation,
dans le futur.
Mais il n'y a qu'un seul critère et c'est l'âge pivot.
Mais oui, mais en effet, l'âge pivot, c'est enfin l'âge, en tout cas l'âge auquel on part à la retraite. Après, on l'appelle comme on veut. Ce qui est important, c'est de laisser aussi du choix aux gens. Vous savez, il y a des gens qui ont envie de travailler au-delà de 64 ans, d'autres qui ont envie de s'arrêter avant. On ne change pas l'âge légal, qui reste 62 ans. On pourra toujours partir à 62 ans. Simplement, on est en quelque sorte primé si on va jusqu'à 64 ans, et même encore plus si on va au-delà de 64 ans. La plupart des pays qui nous entourent sont allés bien au-delà de 64 ans. Au passage, on fait même des progrès sociaux qui vont toujours dans le sens chance de plus d'égalité, puisque jusqu'à présent, par exemple, une femme qui avait une carrière heurtée devait aller jusqu'à 67 ans. C'était l'effet de réformes précédentes, hein, même de gouvernement dont les anciens membres nous critiquent aujourd'hui.
Pour toucher une retraite à taux plein.
Aujourd'hui, avec la mesure qu'on prend, parce que c'est des mesures de solidarité qui valent pour tout le monde, on peut se permettre de dire, eh bien, on va baisser cet âge-là progressivement aussi. Donc c'est une réforme profondément juste et qui recherche l'égalité. Et c'est assez triste de voir que certaines personnes qui se réclament des principes d'égalité, en réalité, attaquent le gouvernement pour faire l'égalité réelle.
Vous étiez présent mardi soir à l'Élysée quand le plan a été finalisé autour d'Emmanuel Macron ?
Oui.
Oui. Est-il exact que personne n'a prévenu Laurent Berger de ce qu'il y avait dedans ?
Ça, je ne sais pas. C'est pas moi qui ai le contact direct avec Laurent Berger. Je n'en sais rien. Honnêtement, j'ai pas la réponse à votre question.
Mais mardi soir, cette réunion conclusive à l'Élysée, elle a tourné essentiellement autour de la fixation donc de cet âge pivot à 64 ans.
Ça s'est décidé mardi soir. Nous avons parlé. C'est-à-dire qu'il y a eu des. On s'est vu aussi dimanche soir. Enfin, il y a eu beaucoup de discussions, comme vous pouvez l'imaginer. Il était normal d'avoir les derniers calages du discours du Premier ministre. Et bien entendu, c'est un travail très collectif et très très précis. Hein. Nous avons travaillé fort tard, d'ailleurs.
Avec des dissonances au sein du gouvernement sur cette question ou pas ?
Des nuances, mais pas des dissonances.
Des nuances sur l'âge pivot.
Mais vous savez, je trouve que c'est sain d'avoir un gouvernement qui discute, qui regarde le pour et le contre. C'est un peu à l'image des Français, ou d'une grande famille, quand on se dit bon, comment on va réussir ensemble à aller de l'avant pour en préservant l'essentiel pour
et
le
futur. Et au final, c'est le chef de famille Emmanuel Macron qui a tranché dans ce sens.
Sous la Ve République, c'est le président de la République, en effet, qui a la décision suprême. Mais c'est vrai que le duo président Premier ministre est clé pour prendre de telles décisions, bien sûr.
Et c'est pas un peu surprenant, Jean-Michel Blanquer, que cette décision aussi importante, hein, que l'allongement du durée de cotisation, la fixation d'un nouvel âge d'équilibre pour toucher une retraite à taux plein, 64 ans, c'est une décision qui est prise au dernier moment, alors que la concertation a commencé il y a 18 mois.
Non, on ne peut pas dire que ce soit au dernier moment. Il y a forcément une dernière minute. Qu'auriez-vous dit si dans les 24 dernières heures qui précèdent un discours essentiel, nous étions allés nous reposer tranquillement ? Non, il est normal jusqu'à la dernière minute de regarder ce qu'on dit les uns les autres, ce que pensent les partenaires sociaux. Donc c'était l'écalage des derniers instants. Mais il est évident que tout ça a été préparé depuis des semaines, encore une fois, en écoutant jusqu'à la dernière minute. Et je dirais, même maintenant, nous continuons à écouter. C'est ça qui est très important. C'est que, encore une fois, nous ne sommes pas des dogmatiques. Nous avons des grands principes. Et c'est sur ces principes, nous sommes très fermes, c'est vrai. Et notamment, là, nous voulons la retraite à point. Nous voulons l'universalité. Nous voulons l'égalité. Nous voulons aussi la lucidité. Et nous voulons l'intérêt général de la France, non pas pour les années qui viennent, mais pour les décennies qui viennent. Donc, c'est les éléments fermes. Après, les modalités... Elles se discutent jusqu'au bout. Encore une fois, il va y avoir un processus parlementaire, il y aura des amendements. S'il y a de très bonnes idées pour arriver à l'équilibre, par exemple, eh bien tant mieux. Mais en même temps, on peut retarder un peu cet équilibre, c'est ce que nous avons fait, 2027 plutôt que 2025, mais pas faire comme s'il n'y avait pas un problème de déficit.
On va évoquer, Jean-Michel Blanquer, dans quelques instants, la question de la grève dans les transports qui est bien partie pour durer, puisque la CGT Cheminot dit qu'elle est prête à tenir au moins jusqu'à Noël. Et puis, la question des enseignants qui sont nombreux à nous écouter et à s'inquiéter aussi des effets de cette réforme. Vous nous direz ce que vous êtes prêts notamment en termes de salaire et de primes à faire pour eux. D'abord les titres à 8h41, beaucoup
de bonnes choses.
C'est ce que vous venez de dire, mais ça on va en parler après. 8h41, l'essentiel tout d'abord avec Mélanie Delaunay.
La réforme des retraites fait l'unité syndicale contre elle. Les réformistes et FDT, UNSA, CFTC rejoignent la grande mobilisation du 17 décembre, hostile à l'âge pivot fixé à 64 ans. Aujourd'hui, action locale contre la réforme avec des manifestations à Nantes, Rennes, Toulouse notamment. Les perturbations sur les rails vont durer, pas de trêve pour Noël, prévient sur France Info le secrétaire général de la CGT Cheminot, sauf si le gouvernement fait marche arrière. Les prévisions de trafic similaires à hier, en détail sur franceinfo.fr. Les policiers, eux aussi, remontés, leurs syndicats sont reçus cet après-midi au ministère de l'Intérieur. Un millier de CRS se sont fait porter pâle hier. La droite réclame un simulateur sur cette réforme des retraites. Simulateur personnalisé, les Républicains présentent aujourd'hui leur contre-projet. Les sénateurs ont voté l'interdiction de la vente de gaz hilarant aux mineurs utilisés dans les siphons à chantilly, détournés avec des risques pour la santé. Et puis le taux de participation, enjeu majeur de l'élection présidentielle aujourd'hui en Algérie. 5 candidats en lice, 8 mois après la démission d'Abdelaziz Bouteflika.
France Info. Et tout est plus clair.
Nous sommes le 12 décembre, les vacances de Noël scolaires arrivent dans quelques jours pour des millions d'écoliers, de collégiens et de lycéens. Et voici ce que dit le secrétaire général de la CGT Cheminot, Laurent Brun, ce matin sur France Info.
La grève continue et nous sommes au regret, parce qu'on n'était pas parti comme ça, de constater que le gouvernement est droit dans ses bottes et que donc elle va durer longtemps. pas de trêve pour Noël, sauf si le gouvernement revient à la raison avant ça. De toute façon, les collègues sont partis dans cette logique-là, ils s'organisent pour tenir dans la durée, certains reprennent le travail puis se remettent en grève ensuite, mais ça tient ferme et il y a une grande détermination à aller au bout.
Jean-Michel Blanquer, comment sortir de ce blocage, que va faire, pardon, l'absus révélateur, comment sortir de ce blocage, Jean-Michel Blanquer, et qu'est-ce que le gouvernement est prêt à faire si les syndicats, comme vient de le dire à l'instant le secrétaire général de la CGT cheminot, perturbent éventuellement les départs en vacances de Noël?
Je vous dis que ce n'est pas une fatalité. Vous savez, je trouve qu'il y a trop de pensées magiques dans ces questions. On a là, on dit qu'il va y avoir un blocage comme si c'était nécessairement une fatalité.
Moi, c'est déjà le cas depuis 8 jours.
Moi, écoutez, tous les cheminots ne sont pas obligés de penser exactement la même chose. Je pense que ceux qui ont écouté le Premier ministre peuvent trouver des éléments rationnels et valables dans ce qui a été dit. Et puis surtout, encore une fois, là c'est quelqu'un de la CGT qu'on vient d'entendre. C'est quoi les principes fondateurs de la CGT? C'est la retraite universelle lors de l'après-guerre. C'est l'égalité entre tous les citoyens. Le jour où on applique pour de vrai les principes qu'affiche la CGT, bloque les trains.
Écoutez, l'UNSA, la CFDT, bloque également les transports.
Un huron qui arriverait en France n'y comprendrait pas grand-chose, si vous voulez, hein, puisque, en réalité, nous sommes en train d'appliquer les principes qui, normalement, animent une organisation comme celle-ci. Donc, ça n'est pas rationnel, ça n'est pas raisonnable. Et en plus, autant il y a un droit de grève, et nous le respectons pleinement, autant il n'y a pas un droit à bloquer. Et aujourd'hui, nous ne devons pas bloquer les Français dans leur transport.
Donc, vous dites clairement aux usagers, Jean-Michel Blanquer, c'est de la faute de la CGT.
C'est clair. Vous savez, en France, quand il y a un mouvement comme ça, souvent on dit les gens soutiennent, disent que c'est de la faute du gouvernement et pas des grévistes. On n'est pas le premier gouvernement.
C'est le cas pour l'instant dans les enquêtes d'opinion. La responsabilité du blocage est attribuée majoritairement au gouvernement et pas au syndicat.
C'est presque du 50-50 d'après ce que j'avais. Et ça peut tout à fait changer. Je pense que quelqu'un qui analyse clairement la situation voit bien que le gouvernement ne souhaite en aucun cas les blocages et que le blocage, comme on l'entend dans votre interview, c'est le fait de ce syndicaliste. Enfin, des autres responsables. Donc, aujourd'hui, personne ne peut dire que c'est de la faute du gouvernement s'il y a un blocage.
Est-ce qu'on peut à la fois dire que la position de la CGT est difficile à tenir, Jean-Michel Blanquer, et ne pas tenir compte de celle de la CFDT?
Alors, ça dépend si on parle là de la CGT cheminot ou de la CGT en général, d'ailleurs, ou même de la CFDT secteur par secteur. Si vous prenez le domaine de l'éducation, moi je discute avec la CFDT qui s'appelle le SGEN dans l'éducation, avec l'UNSA, avec les autres syndicats aussi. Je vois bien qu'on a beaucoup de points sur lesquels on peut avancer ensemble. Donc ce serait excessif de décrire la situation comme étant complètement bloquée dans tous les domaines. Dans le domaine de l'éducation, puisque c'est ce que vous vouliez me demander, les perspectives sont vraiment bonnes et très intéressantes. Je l'ai dit à plusieurs reprises ces derniers jours, mais je peux le répéter. Premièrement, nous garantissons que les pensions ne baisseront pas. Autrement dit, la première des craintes, c'est celle-là. Moi, je dis à tous les professeurs, regardez ce que vous avez reçu dans vos boîtes mail ces derniers jours. Des dizaines de mails d'organisations de toutes sortes qui vous expliquent que tout va être catastrophique. Ça devient presque indécent tellement on essaye d'abreuver de mauvaises nouvelles les gens. Alors que maintenant, ce qu'on vous dit et qui va être dans la loi, c'est que les pensions ne baisseront pas. Donc, regardez vos mails des 3 dernières semaines et vous voyez bien que ce que l'on vous dit est en train de s'accomplir. Et quand même, si je mentais maintenant, d'abord, je ne mens pas. Et ensuite, si je mentais, ça se verrait dans quelques semaines.
Il y a moyen aux 30 ou 40 ans pour certains.
Non, dans quelques semaines, quand ce sera ou non dans la loi d'avoir garanti qu'il n'y aura pas de baisse des pensions. C'est quand même un point majeur et ce n'est pas la seule nouvelle importante et positive pour le monde enseignant.
Il y a un moyen très simple, Jean-Michel Blanquer, de rassurer les enseignants, c'est de dire de combien ils vont être augmentés.
Eh bien, là aussi, il y a quelque chose qui est quand même très fort, c'est que nous disons les pensions ne baisseront pas, et pour qu'elles ne baissent pas, nous allons augmenter les rémunérations, afin que quand quelqu'un prendra sa retraite, la somme de ce qu'il aura gagné au long de son parcours permette d'avoir une pension.
Donc quel montant va-t-il être augmenté? Parce que ces augmentations vont commencer dès 2021, c'est ce qu'a annoncé le Premier ministre.
Tout le reste est un exercice à la fois logique et technique, qui concerne notamment ceux qui sont nés après 75. C'est pour ça, j'entendais sur votre antenne, avant qu'on arrive, le fait que être né en 75, ce serait une malédiction. Vous avez plaisanté là-dessus.
Non, on a même écouté Joe Dassin, vous voyez que c'est pas forcément une malédiction.
En fait, d'abord, c'est toujours mieux d'être un peu plus jeune. Et par ailleurs, aujourd'hui, quelqu'un qui est né après 75, dans le cas de l'éducation national, va bénéficier un peu plus que quelqu'un qui est né avant 75 des revalorisations que nous ferons. Donc, si vous voulez, ce qu'il faut bien voir, c'est que la réforme,
Tous les enseignants, Jean-Michel Blanquer, enseignants ne vont pas donc être augmentés de la même somme. Ceux qui sont nés après 75 seront plus augmentés que les autres.
Oui, parce que le nouveau système de retraite, en tant qu'il est égalitaire, permet de mettre en lumière les choses qui ne sont pas égalitaires dans notre système jusqu'à présent. Et qu'est-ce qui n'est pas égalitaire dans notre système jusqu'à présent ? C'est que c'est justement en début de carrière que vous êtes mal payé en France, si on se compare à d'autres pays, alors qu'en fin de carrière, vous êtes plutôt bien payé, voire mieux payé que dans d'autres pays, et c'est pour ça qu'on a des pensions qui sont assez bonnes pour les professeurs aujourd'hui. Donc, la réforme des retraites met en lumière cela, et comme de toutes les façons, je l'avais dit depuis 2 ans, nous voulions travailler à cette amélioration des rémunérations des professeurs, on fait en quelque sorte d'une pierre 2 coups, et oui, c'est vrai, c'est plutôt ceux qui sont nés après 75 qui bénéficieront de cela, même si ceux nés après 75 pourront avoir aussi certaines améliorations, mais là aussi, on regarde domaine par domaine. Par exemple, dans le premier degré, les retards sont plus importants que dans le second degré. Mais il y a aussi toute une série de sujets qui ne sont pas seulement les sujets salariaux, dont nous allons pouvoir discuter au cours des prochains mois pour arriver à ce bien-être enseignant auquel je tiens tant.
Les augmentations, Jean-Michel Blanquer, pardon de revenir aux chiffres, uniquement aux chiffres, ce sera chaque année pendant des années, au 1er janvier ?
Oui, tout à fait.
Et sur combien d'années ?
Et un des points décisifs de ce qu'a dit le Premier ministre hier, c'est qu'il a dit que c'était à partir du 1er janvier 2021. C'est-à-dire qu'on n'attend même
dans
pas le début de la réforme des retraites, de façon à anticiper le nécessaire monté en puissance.
Le chiffre qui a inquiété
certains. Année après année. Autrement dit, c'est un contrat social renouvelé avec les professeurs. Fondamental, on est en train de résoudre structurellement un sujet qu'on traîne depuis des décennies, c'est-à-dire le fait qu'il y a des choses qui ne vont pas en matière de rémunération. On est en train d'en profiter aussi pour avoir une vision complète de ce que c'est la vie concrète des professeurs. Comment, par exemple, les sujets de santé qui ne sont pas des sujets satisfaisants aujourd'hui, comment on va les améliorer, les sujets de bien-être au travail, les sujets de mutation, les sujets de carrière, tous ces sujets pour lesquels on dit trop souvent que notre maison, l'éducation nationale, est un peu trop rigide, anonyme, bureaucratique. Moi, ce que je veux, c'est qu'on profite de cette occasion pour avoir ce grand dialogue social qui va nous permettre, d'ici à l'été, eh bien de travailler avec les organisations syndicales pour cela. Et d'ailleurs, je vais les recevoir. C'est pourquoi, si vous voulez, dans le domaine de l'éducation nationale, je ne considère pas du tout que les choses sont bloquées, surtout quand chacun comprendra que nous avons donné des garanties très fortes et qu'il ne faut pas se laisser emporter par les fausses mauvaises nouvelles.
On s'interrompt quelques instants, Jean-Michel Blanquer. Encore beaucoup de questions sur les enseignants et sur d'autres thèmes. D'abord à 9h10, Mélanie Delaunay, pour l'essentiel de l'actu.
Il y a de la place pour la négociation, que ce soit sur la pénibilité ou les modalités pour parvenir à l'équilibre, assure ce matin le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Mais pour la CFDT, la ligne rouge est franchie. Le syndicat réformiste opposé à l'âge pivot fixé à 64 ans rejoint la mobilisation du 17 décembre contre la réforme des retraites, tout comme l'UNSA et la CFTC. Journée d'action nationale, donc mardi, mobilisation locale aujourd'hui. Des manifestations prévues, des blocages en ce moment sur les routes à Rouen et au Havre. Des bus empêchés de sortir du dépôt en Ile-de-France. Les syndicats remontés, le patronat satisfait. Sur France Info, le président de la CPME d'Île-de-France salue, lui, des annonces fortes. Moins de cambriolages et de vols l'an dernier, des violences physiques en hausse selon l'enquête de l'Observatoire national de la délinquance. 700 000 personnes disent avoir été victimes d'agressions. Près d'un quart ont déposé plainte. Si les conservateurs l'emportent, le Brexit aura bien lieu fin janvier, la sortie de l'Union européenne au cœur des élections législatives aujourd'hui au Royaume-Uni. Et puis on attend un mois de pluie en 2 jours, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques sont placées en vigilance orange par Météo France.
France Info.
La réforme des retraites, disais-je, la question des enseignants et question de Renaud Dely.
Vous ne nous avez pas donné de chiffres, on a bien compris Jean-Michel Blanquer, par enseignant en termes d'augmentation de salaire. Est-ce qu'à défaut d'un chiffre ou d'une fourchette par enseignant, est-ce que vous avez une enveloppe globale ? Combien ça va coûter globalement ?
Encore une fois, c'est sur plusieurs années. C'est forcément sur plusieurs années, plusieurs milliards, puisque vous savez, il y a 1 million de personnels à l'éducation nationale.
On avait évoqué une enveloppe de l'ordre de 400 à 500 millions par an.
Ça, c'est un ordre de grandeur, mais ce serait une erreur de donner des premiers chiffres aujourd'hui, puisque précisément, ça doit résulter à la fois du dialogue social et des différents calculs que nous avons à faire. Mais on est dans ce type d'ordre de grandeur, ça c'est exact. Et si vous voulez, ça doit nous permettre, année après année, d'avoir des améliorations salariales qui permettront, un, de garantir les pensions, je l'ai dit, mais aussi d'avoir un niveau de rémunération de nos professeurs à tous les âges, c'est-à-dire aussi bien au début de carrière, en milieu de carrière, qu'en fin de carrière, comparable aux pays les plus avancés.
Si vous avez une enveloppe de 500 millions et vous avez le nombre d'enseignants, vous savez ce que ça fait comme augmentation par enseignant.
Non, justement, ça c'est un raisonnement beaucoup trop rapide, si vous voulez, puisque précisément, ça ne sera pas saupoudré de cette façon-là. C'est d'abord, ça sera centré sur, par exemple, les plus jeunes et certains milieux de carrière. Et d'autre part, c'est année après année. Donc, toutes les divisions un peu simplistes que j'ai entendues ne sont pas exactes. En revanche, revanche, si on planifie sur plusieurs années des augmentations de ce type, ça va faire des augmentations de rémunération très significatives pour les professeurs. Donc,
qui vont chiffrer en centaines d'euros sur leur fiche de paye sous forme de salaire ou de prime.
Au bout du processus, oui, bien sûr.
Au bout du processus. Est-ce qu'il y aura des contreparties à ces hausses de salaire ou de prime des enseignants? Est-ce que vous allez notamment leur demander de travailler davantage ou de renier leurs congés?
C'est pas tellement le sujet des congés qui est au centre, c'est le sujet de regarder la condition enseignante, et d'ailleurs même des personnels de l'éducation nationale en général. C'est-à-dire comment nous arrivons à cette école de la confiance dont je parle souvent, nous avons besoin de construire, qui d'ailleurs sera indispensable pour la France en tant que telle, qui a besoin d'être davantage une société de confiance, on le mesure dans des circonstances comme celle-là, où tout simplement on va à l'école avec plaisir, ça doit être vrai pour l'élève, ça doit être vrai pour le professeur, et entre parenthèses, tout ce que nous allons faire pour les professeurs, nous le faisons pour les élèves, parce que si les professeurs sont heureux au travail, il y aura plus d'attractivité du métier, il y aura plus de bonheur tout simplement, et plus de partage du savoir. Donc il y a vraiment un idéal éducatif qui peut être complètement renouvelé en France à l'occasion de ces circonstances, et moi ce que je souhaite, c'est d'arriver à faire passer ce message à tous les professeurs, parce que je suis frappé de voir que quand même, quand vous annoncez des bonnes nouvelles, voire des très bonnes nouvelles, il y a une espèce de floraison de discours qui se veulent négatifs, pessimistes. Il y a un certain nombre d'organisations qui sont en train de dire des choses négatives au moment où elles devraient prendre ma main, la saisir et aller jusqu'au bout de ce processus pour améliorer les choses. C'est d'ailleurs l'invitation que je leur fais. En ce moment, vous avez le congrès de la FSU, qui est un syndicat important dans l'éducation nationale. Je leur dis, mais prenez la main que je vous tends. Et d'ailleurs, je ne doute pas qu'ils la prendront. Dès la semaine prochaine, on aura des tables rondes autour de ces questions. Je reçois les autres organisations, j'ai cité l'UNSA et la CFDT tout à l'heure, mais il y en a d'autres dans l'éducation nationale. Je les recevrai. L'occasion est assez historique au cours des prochains mois pour réellement repenser les ressources humaines à l'éducation nationale de manière beaucoup plus humaine, justement. J'organiserai au début du mois de mars une conférence internationale sur le sujet d'être professeur au 21e siècle pour arriver justement à avoir une vision aussi à l'échelle mondiale de ce que c'est qu'être professeur dans la nouvelle civilisation dans laquelle on est en train d'entrer. Cette civilisation technologique où on a besoin de plus d'humanité, donc de plus de professeurs, et de façon nouvelle d'approcher tous les enjeux éducatifs, bien tout cela peut progresser à l'occasion des prochains mois. Il faut saisir cette main.
Et
d'ailleurs,
sans
je tends non seulement aux organisations syndicales, mais par exemple
aux enseignants. Regardez, Michel Blanquer, est-ce qu'il y aura des contreparties ou pas à ces hausses de revenus?
Une vision complètement renouvelé si possible de ce que je vous donne un exemple.
C'est pas très concret. Jean-Michel Blanquer,
parce que si je vous dis des choses
en termes
précises,
de temps de travail par exemple, est-ce qu'il y aura une évolution du temps de travail des enseignants,
exemple,
est-ce qu'ils travailleront
autant,
davantage?
Prenons un exemple. Je vais prendre un exemple pour illustrer tout ce que je dis. La formation continue. La formation continue, c'est essentiel. Les systèmes scolaires qui fonctionnent le mieux sont ceux qui ont des formations continues volontaristes, puissance. Par exemple, si vous faites une semaine de formation continue en français pour les professeurs des écoles aujourd'hui ou en mathématiques, vous la faites de manière très bien conçue sur le plan qualitatif, vous pouvez améliorer beaucoup de choses si vous le faites pour tous les professeurs. C'est d'ailleurs ce qu'on est en train de faire beaucoup en mathématiques en ce moment. Eh bien, quand vous faites ça, plutôt que les choses qui sont un petit peu au fil de l'eau que nous faisons depuis des décennies à l'éducation nationale, vous améliorez tout simplement le niveau des élèves. Si vous le faites sur le temps scolaire, ça a un coût pour l'institution, parce que vous devez remplacer, vous créez de l'absentéisme. Et par contre, si cette formation est faite en dehors du temps de travail et que le professeur est rémunéré, eh bien, c'est, je dirais, gagnant pour tout le monde. Et c'est un exemple parmi d'autres, mais si cette formation continue, elle vous permet aussi de progresser dans votre carrière, d'avoir des nouveaux horizons, d'avoir une façon de muter dans un autre poste différente, d'avoir peut-être une seconde carrière ailleurs et puis de revenir, bref, de mettre de la souplesse, de l'humanité, de la personnalisation des parcours, c'est une opportunité formidable.
Et donc ceux qui accepteraient de se former sur leurs jours de repos plutôt que sur les jours d'école pourraient être sur le dessus de la pile des augmentations?
Non, mais ça c'est un exemple. En réalité, ce que je viens de dire, nous le faisons déjà en partie, et c'est d'ailleurs ceux qui le vivent peuvent en être satisfaits. Mais c'est un exemple pour dire que on ne doit pas être rigide dans notre manière de concevoir le temps. Parfois, vous pouvez donc il y a rien de punitif quand on parle de la question du temps de travail. Il y a une question de souplesse et une question de personnalisation de ce qui arrive à chacun en fonction des circonstances concrètes.
Il nous reste une petite minute, Renaud Dely.
À la suite de votre réforme du bac, que vous avez engagée, Jean-Michel Blanquer, les premières épreuves liées maintenant à ce nouveau bac vont débuter dans le courant du mois de janvier.
Est-ce que
vous redoutez que le mouvement enseignant actuel perturbe l'organisation de ces épreuves ?
Non, pas du tout, parce que d'abord, j'ai confiance dans la conscience professionnelle des professeurs. Ensuite, c'est un contrôle continu, donc dont on voit sur le terrain maintenant les premières vertus, c'est-à-dire que les élèves de première sont dans un travail beaucoup plus continu. On le voit, hein, sur le terrain, on voit comment les élèves se concentrent sur cette échéance, ce qui fait partie des vertus que nous attendions, c'est pour hausser le niveau général. Et puis voilà.
Les syndicats enseignants vous ont demandé le report de ces épreuves, considérant que l'éducation nationale aujourd'hui n'était pas prête pour les organiser.
Nous sommes prêts. Un syndicat enseignant et pas les syndicats a dit ce que vous venez de dire. J'ai entendu aussi dans le passé qu'il fallait reporter tout un tas de choses. Non, la réforme s'accomplit. Elle a beaucoup de vertus pour nos élèves. Encore une fois, l'objectif, c'est de hausser le niveau. C'est aussi d'avoir donné de nouvelles libertés aux lycéens qui ont pu choisir des choses qui leur plaisent et donc les approfondir davantage, qui travaillent plus en continu, ce qui est très souhaitable. On évite le bachotage et au contraire, on travaille en continu. Tout ça, c'est des vertus qui étaient annoncées dans la réforme du lycée et qui sont en train de s'accomplir. Et donc, c'est en effet ces modernisations que nous pouvons souhaiter pour notre système.
Merci Jean-Michel Blanquer.
Merci. Merci à vous.
Et bonne journée à vous dans 2 minutes 9h sur France Info. Et l'info politique, n'oubliez pas, c'est aussi un podcast original sur France Info. Paris, la bataille, le feuilleton des municipales. Un nouvel épisode tous les vendredis. Un podcast à écouter sur franceinfo.fr, disponible aussi sur l'application Radio France.